9h dans le bureau de Par Jupiter, Alex et Guillaume s'activent.
Oui, alors Marina, on met bien.
Non, on met assez bien plus, parce que j'ai entendu une fausse note une fois.
Ouais, bah sans compter toutes celles que t'as pas entendues.
Ah bah non, alors assez bien moins.
Assez bien moins, là, Elia, bon ça c'est facile, première de classe, on va dire très bien.
Attends, non, parce que moi je trouve que son français, il est pas très orthodoxe. Moi je lui mets passable plus.
Passable?
Bah oui.
Bien dur.
Bon, et Juliette?
Salut les garçons, Juliette.
Oh, belle entrée, oui. Très bien, Juliette, en plus elle est fidèle au poste.
Bah hier elle était pas là, donc on va mettre bien plus, comme Taubira, voilà.
Quoi? Bah, j'ai pas les félicitations?
Non, mais ça existe pas les félicitations dans ce système.
Réjouis-toi, parce que là, alors qu'il est, tu serais élu à la primaire populaire jupitérienne.
Au jugement majoritaire, hein.
Deux votants.
Deux votants, mais c'est une grande victoire pour toi, Juliette.
Et c'est aussi donc une grande responsabilité, Juliette.
Nous devons trouver une clé.
Wow.
Nous devons trouver un langage.
Et parce qu'il y a une belle carte à jouer, c'est
mais
ça.
Non, idiot. On a un rôle social et éducatif dans Par Jupiclasse.
Bah, tu vois, elle a déjà l'étoffe d'un chef.
D'une chef.
Oui.
Notre sort commun appelle l'union et le rassemblement.
Et elle s'emballe, là. Oh, oh, oh.
J'appellerai Charline.
Oui.
Et je le ferai avec respect.
Ouh, c'est bien, Juliette. Oui, il faut jouer l'union, c'est bien.
Mais pas du tout. Quand Charline va revenir, elle va reprendre sa place et puis c'est tout.
Par Jupiter a une très belle histoire.
Je déconne pour la carte à jouer, Juliette.
Et je veux vous dire que je mesure la confiance que vous me témoignez et que j'en suis profondément fière.
Oui, c'est magnifique, Juliette, je vais très bien.
Mais calmez-vous, mais le pouvoir...
Je vous aime.
Vous aussi, Juliette, vive la République.
Non, mais en fait, en France, les élections, ça vous rend zinzin, quoi.
Oui.
On est chez nous, on est chez nous.
On est chez nous, on n'est pas chez nous.
On est chez nous.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la récréation de Par Jupiclasse puisque la professeure est pas là. Et voici la devise du jour, et j'en ai même pas écrit parce que j'en ai vraiment rien écrit. Mais bien sûr, elle écoute même pas. Juliette Arnaud, vous êtes là, vous, bonjour.
Oui, je suis là, bonjour.
Et bien sûr, aujourd'hui, vous vous lancez dans la lecture d'un roman de Jean Giono, Un roi sans divertissement, l'histoire d'un tueur en série dans les montagnes enneigées.
La neige qui nous tombe du ciel par millions de cristaux présente plusieurs caractéristiques. Elle est blanche, elle est froide, mais surtout, elle glisse.
L'important, c'est la précision. Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Alex Vizorek.
Quelle théorie islamo-trotskisto-woke allez-vous fourrer dans la tête des pitchouns apolitiques?
Alors,
qui nous écoutent?
Pour les pitchouns, je vais expliquer aujourd'hui le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et je suis allé voir des spécialistes, comme ça vous allez bien tout piger.
Poutine, c'est un très bel homme.
Voilà, aussi du physique, c'est important le physique dans une guerre.
Ouais. Vous parlez de la précision, j'ai l'impression que c'est la thématique
c'est
de l'émission. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, masterclass de cinéma, proposée par non pas un, mais deux intervenants. Moussé Hakim, historique de Zebda, donc a priori, quand même, le dire Guillaume.
Oui, ben je me demande, il y a arrangement ou il n'y a pas
Il n'y a pas,
il n'y a pas. Il n'y a pas, salut messieurs.
Bonjour.
Alors vous avez choisi non pas de nous parler d'un film, mais d'un réalisateur qui vous a marqué, qui vous a fait découvrir le cinéma, le vrai cinéma.
Là, il y avait du vrai, là. C'est ça, le cinoche, putain. Cherche pas à comprendre. Cherche à sortir avec tes tripes.
Voilà, c'est ça. Comme ça que ça a bossé, pour préparer. Et celle qui aussi chronique avec ses tripes, et elle est à côté de moi, c'est Juliette Arnaud.
Et à mes côtés, Alex, il était une fois trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police de Par Jupiter. Non seulement elle enquête dans toute la Belgique wallonne, mais en plus elle est capable de faire passer à table même les gens morts. Bonjour Sabrina. Bonjour Laurence Bibon.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous parler, Laurence?
Eh bien écoutez, ça tombe très bien. Et si le cheveu était politique? Non, c'est pas une question. Le cheveu est politique.
Mais bien sûr, Sabrina. En sus de jouer merveilleusement du violon, elle sait nous donner l'illusion qu'on comprend de quoi elle nous parle, quitte à nous y envoyer au violon si on touche à son crin-crin. Bonjour Kelly.
Bonjour Marina. Hello Juliette.
Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Marina?
Eh bien, je vais vous emmener à l'opéra ou en prison avec mon violon.
Enfin, c'est notre profileuse. Elle sait décrypter n'importe quel interrogatoire, vu que c'est les mots, c'est son dada, et vu son ample chevelure, c'est notre phara à nous. Bonjour Jill. Bonjour Laïa Verdon.
Bonjour Juliette.
Alors, quel est le sujet aujourd'hui?
Les présupposés, les sous-entendus et Emmanuel Macron.
Beaucoup la
troisième partie. Et puis Alex, pour la Chandeleur, nous aurons un journal aussi imprécis que querelleur, des exercices qui persiflent mais sans contrôleur, et un dessin, enfin ça c'est si Alex respecte l'heure. Et tout ceci au service d'une émission anti-douleur, bien sûr.
Oh là, j'ai peur.
France Inter, oui. Juliette Armaud, Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupiclasse.
Au boulot.
Et ça, c'est pas écrit. Hein. C'est...
c'est bien, c'est là.
L'instant.
Quel métier.
Non, mais le bol qui est là, quand même. D'avoir quelqu'un qui a la virtuosité c'est derrière, c'est... qui rattrape. Voilà.
C'est impressionnant. Ben,
ouais. Elle, c'était moi, bien sûr.
Non, je parlais de Charline que nous embrassons, évidemment. Et merci à toute l'équipe, évidemment, de me soutenir. Je ne serais rien, évidemment. pardon. Ça m'a échappé. Donc, on a la chance d'avoir Moussé Hakim pour venir nous parler de cinéma. Mais d'abord, on parle un peu de musique. Puisque un album est sorti, Daron de la Garonne, où voilà, c'est un disque fait de chansons qui ont été composées sur des textes inédits de Claude Nougaro.
Oui, c'est parti d'un cadeau que nous a fait sa sœur Hélène Bignon, qui nous a proposé à un moment donné, au moment de notre rencontre, des textes inédits de son frère Claude. Alors nous, Claude Nougaro, on l'a côtoyé, connu.
Rappelez-nous pour les gens qui ne le connaîtraient pas.
C'est notre Jacques Brel à nous.
Ah oui,
bien joué.
Ça peut situer là. Exactement. Et donc voilà, et on a grandi dans le même quartier que lui. Et puis il nous a écrit un texte aussi en 2002 qui s'appelle Bottes de banlieue. Et puis c'est un fil qu'on a tiré comme ça parce qu'on avait cette opportunité de faire parler le territoire. Quoi, cette poésie-là, parce qu'on retrouve nous chez Nougaro ce rythme, cette poésie qui porte du physique, du groove aussi et du lyrisme. Et on avait vraiment très envie de travailler sur des textes inédits et de pas faire du Nougaro, parce que c'est ça le défi quand même, c'était de rester nous-mêmes et d'incarner.
On va écouter un extrait.
Armstrong, je ne suis pas noir.
Excusez-moi, François, excusez-moi. Non, il y a eu un.
Ça s'appelle un tac.
Il y a eu un twist.
Vachement bien.
Non,
c'est carton jaune, quand même.
On peut expliquer ce que c'est. Pas trop difficile de passer après Gad.
Gad Elmaleh
qui a travaillé sur Nougaro.
Et oui, non, peut-être que finalement, ça nous a ouvert le champ de quelque chose de nouveau et de un peu original.
Parce que vous ne reprenez pas les classiques.
Non, ce n'est pas des reprises.
Ce
n'est pas des reprises.
C'est une collaboration. D'ailleurs, il y a un texte qui s'appelle Bottes de banlieue, qui l'avait écrit pour vous.
Qui nous a écrit en 2002.
En 2002, ouais, quand on l'a rencontré plusieurs fois. Hein, c'est quelqu'un qu'on a vu, il est venu nous voir, on était jeunes.
Est-ce qu'il vous a adoubé comme la succession de la musique toulousaine?
Il a été très bienveillant quand on l'a rencontré au départ. Donc du coup, on s'est rencontrés, on a eu un collègue qui avait l'âge de notre père, avec qui on a fait la fête. Et quand il nous écrit ce texte, Bottes de banlieue, on parle du quartier avec lui et il nous dit non mais vous c'est les faubourgs.
T'as vu ? Avec un mot d'un coup on est dans le récit direct.
C'est le mec, c'est là faubourg. Où t'adoubes là, t'as clope.
Eh bien, on l'écoutera, Bottes de banlieue, juste après la chronique de Laurence Bibot. Oui, préparez-vous, mais je vais d'abord faire une annonce parce que.
Vous avez vu que je suis sur la balle.
Mais on a un problème parce que il y a la doc citeuse de Laurence Bibot qui a abandonné, donc on ne sait pas où en est le chien. Ben donc, non, si elle nous écoute, si elle peut envoyer un petit message.
Ben, c'est-à-dire que si le chien a son téléphone qui m'appelle. Je peux lire les messages.
Allez, c'est à vous Laurence Bibot. Concentrez-vous
Évidemment, mais vous savez, une drôle de dame peut faire beaucoup de choses à la fois. Et une drôle de dame, ça tombe bien, parce que justement, je voulais vous parler coloration et cheveux. Le cheveu est politique, hein, on le sait, de la coiffure à la longueur, texture, couleur, c'est politique. Et comme cette émission s'intéresse à la politique, ça tombe bien, je vais vous parler cheveux. Et coloration. Alors, il ne faut pas être experte en mèche pour s'apercevoir qu'en France, en politique, les blondes sont de droite, les brunes de gauche. Et le petit au milieu est châtain. Ne m'appelez plus Laurence Bibot, mais Laurence Bourdieu. Parce que voilà, mon analyse s'arrêtant ici. Alors, évidemment, c'est une représentation capillaire qui ne reflète pas la complexité de votre beau pays. Par exemple, dans ce studio, nous avons du blond sable fin qui, d'après moi, vire à gauche, du châtaignier rôti qui pencherait peut-être un peu plus à droite. Et puis aussi d'autres choses. Voilà.
Des gens qui ne veulent pas
se mouiller.
Se mouiller.
C'est ça.
Voilà,
ils votent blanc.
En 1971, dans l'émission belge Féminin Présent, on s'intéresse à la coloration et aux femmes. Alors, pas aux femmes politiques. Les femmes politiques n'intéressent personne en 71, puisqu'il n'y en avait pas. On s'intéresse à la différence entre ces Françaises et ces Belges.
Je crois que la femme belge n'est pas aussi souvent teinte qu'on pourrait l'imaginer. Une femme sur trois à peine a les cheveux colorés. Alors qu'en France, trois sont colorés sur 4.
Bon, honnêtement, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. De femmes et de coloration. Mais je confirme, pour avoir eu la chance d'assister dans la même journée au plus prestigieux défilé féminin de la Fashion Week et d'avoir pris le RER dans la même journée, croche-choc, au-delà du thermique, eh bien, je confirme que la femme française, n'en déplaise à certains, et dans tous les sens du terme, est colorée. Et le chiffre de 3 sur 4 ne me semble pas exagéré, en tout cas, surtout dans le RER. Bon, alors, poursuivons avec notre spécialiste coloration que je décrirait comme un type qui a une tête de clou et non une tête de con. Voilà, c'est plus simple. Et comme vous le savez, les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Il y a tant de femmes de n'importe quel âge qui ont des cheveux d'une plate banalité, des châtains clairs, des châtains, des blonds foncés. C'est triste à pleurer. Vous, par exemple, pourquoi ne vous coloreriez-vous pas les cheveux?
Pourquoi devrais-je les colorer?
Eh bien, parce que je trouve que ce blond cendré, qui est joli, mais qui est un peu banal, ne met pas en valeur ni vos yeux, ni votre teint.
Mets ta gueule, voilà.
Mais il voulait rendre service, enfin, voilà, c'est...
Ta gueule.
Ouais. Non, bon. J'ai dit un, ta gueule.
Oui, pardon.
Dois-je en dire deux? Je suis un peu, voilà. En 1971, toujours, qui interroge-t-on au sujet des femmes et de leur coloration? Mais des hommes, bien entendu, avec l'ancêtre du micro-trottoir qui s'appelait l'opinion publique. Et je vous confirme qu'on est bien sur un trottoir, voire même au bord du périphérique. Excusez le son, c'est un peu confus.
Est-ce que votre femme a les cheveux de dalle?
Non, madame, je suis contre.
Ah, voilà qui est net. Peut-on vous demander pourquoi?
D'abord parce que j'ai le goût du naturel. Et parce que je pense que la coloration dans les cheveux est incompatible avec la dignité et la respectabilité d'une mère de famille.
Je peux dire le deuxième tag?
Je ne le veux pas demander.
Alors, oui, on peut dire tous ensemble à ta gueule commun. Et pourtant, messieurs, mesdames, merci monsieur, parce que voilà qui justifie tous les excès, tous les manques de nuances, les débordements, les prises de position radicales et parfois risibles de mes amis féministes. Parce qu'il fallait bien ça pour combattre ça. Et parce que la violence, même symbolique, ne se combat pas avec un balayage délicat.
Oh, merci, Laurence Bibou. Eh bien,
vous êtes
content. Ça parle cheveux, vous êtes content.
Ouais, on s'est senti apolitique pour une fois. Dans vous avez une très belle chevelure, en tout cas, Laurence. Peut-être un peu banal par moment.
Je me retiens. Pardon. Je le ravale.
Textoter avec votre caniche. Et d'ici là, on va écouter.
Je vous remercie.
Je vous l'ai bien vendu tout à l'heure. Bottes de banlieue, la version 2020. Yes.
Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux, de petits pouces et facétieux. Plein de cailloux dans les culottes. Ils ont plus que sang, que fromage, de gruyère, de ciment et de fer. Des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. J'ai fait 10 pas, peut-être 12. Ça ne loupe pas, je tombe à Toulouse. Tombe à Toulouse, oui, 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 je tombe à Toulouse. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. J'ai fait 10 pas, peut-être 12. Ça loupe pas, je tombe à Toulouse. Tombe à Toulouse, oui, 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 je tombe à Toulouse. Regarde là ma ville.
là. Elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux.
Elle s'appelle Bidon.
Donne-moi ta main, camarade. J'ai cinq doigts moi aussi. On peut
Moussé Hakim, Bottes de banlieue, issu de l'album Daron de la Garonne. Et on se disait, tiens, voilà une chanson qui passerait bien sur scène.
Et oui, justement.
Et coup de bol. Coup de bol.
Coup de bol, on a tourné.
Et Le Havre demain.
Voilà, demain à Le Havre, à Sotteville-lès-Rouen vendredi, en Ardèche samedi.
À Privas, tu sais, on se balader, on va faire le tour de France.
Et j'imagine qu'il y a un site qui répertorie tout ça.
Oui, oui. Ça fait du bien aussi de repartir.
Moussé Hakim, point Théo, Toulouse. Et on trouve tout. Théo, oui, excusez-moi. J'ai pas l'habitude. Merci à vous et tout à l'heure, parce que là, on a fini de chanter, on va préparer la chronique cinéma, oui. En cette fin d'émission. Avant ça, évidemment, les gens attendent ça, c'est l'actualité, le journal, bien sûr.
On ne doit pas triturer la langue française, ça n'est bon à aucun titre, y compris pour le sujet essentiel de mon point de vue, qui est l'apprentissage des savoirs fondamentaux de la part de nos élèves.
Le journal de presque 17h17.
Je courus.
C'est pas coura, mais c'est il couru.
Oui, bien sûr, évidemment.
Et on commence par les titres.
Dans une interview accordée à La Voix du Nord, Emmanuel Macron déclare « Je veux que les crises sanitaires et géopolitiques soient derrière nous ». Avant d'être candidat à l'élection présidentielle 2022.
Coup de tonnerre, retournement de situation que personne n'avait vu venir. Emmanuel Macron ne sera pas candidat à sa réélection.
Les candidats de droite et d'extrême droite étaient reçus ce matin par Alliance Principale Syndicat des Policiers, tous les candidats de gauche ayant refusé l'invitation.
Eh oui, quand ils ont vu Alliance, la gauche, ça les a tout de suite angoissés.
Et des brèves.
J'arrêterai les brèves quand les crises sanitaires et géopolitiques seront derrière nous.
Merde.
Mais c'est plus malin dans ce sens. Ça, évidemment. Commençons par la politique, justement.
Le Conseil constitutionnel a publié la première salve de parrainage validé candidat par candidat et c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 105 parrainages validés.
Coup de tonnerre, retournement de situation, c'est complètement dingue, il serait candidat à sa réélection.
Et donc, et avec déjà 48 parrainages validés, Anne Hidalgo prend la deuxième place.
Écoutez bien cette phrase, parce que vous ne l'avez entendu si souvent. Anne Hidalgo prend la deuxième place.
Jean Lassalle était en duplex au JT de France 2.
Oui, et le journaliste lui a posé une question simple.
La première question, quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République?
Bonjour, cher Julien. Il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, de première décision puisque Macron va être réélu.
Bah oui. Pour une fois qu'il y en a un qui est sincère et qui dit la vérité et qui est honnête, on va pas taper dessus. Bien joué, Jeannot.
Jordan Bardella, du Rassemblement National, a annoncé ce mercredi sa mise en examen pour avoir qualifié en octobre 2021 la ville de Trappes de République islamique.
Oui, Marine Le Pen a aussitôt téléphoné à Éric Zemmour en lui disant « Et celui-là, tu veux pas me le prendre, s'il te plaît ?»
Le président des chasseurs, Willy Schran, a été défendre la chasse au Sénat.
Oui, et il a utilisé une technique rhétorique assez fine, comparant. Attendez, ben, soyez vigilants, il a tout tenté. C'est ce qu'on appelle le joker. Son activité a une pratique sportive.
Une pratique sportive, quelle qu'elle soit, pratiquée dans un cadre sécuritaire, peut s'avérer dramatique pour autrui. Une paire de skis peut être aussi une arme mortelle, comme l'actualité récente vient encore de nous le prouver.
Et bam. Ouf. Même quand il parle, il vise la mauvaise cible. C'est fascinant.
Justice. Oui. Âgé de 87 ans, Tommy, le plus vieux détenu de France, reste en prison malgré une nouvelle demande de libération.
Oui, il peut s'estimer heureux à son âge. Il est sûrement mieux en prison que dans un EHPAD géré par Orpea.
Alors justement, oui. L'ex-PDG du groupe de maisons de retraite Orpea est soupçonné d'avoir vendu des milliers d'actions juste avant le scandale.
Et c'est la première fois que c'est le patron et non un pensionnaire qui crie bingo.
Selon le Carnard enchaîné, il aurait revendu 5456 actions de son entreprise 3 semaines après avoir été informé de la parution prochaine du livre de Victor Castanet, encaissant ainsi plus de 588 000 euros.
Et oui, à mon avis, il essaye de mettre suffisamment d'argent de côté pour ne pas être condamné à se retrouver dans un EHPAD Orpea le moment venu.
Sport, oui. Un fan accuse Yannick Noah de l'avoir arnaqué en lui vendant une raquette.
Oui, enfin Yannick Noah, c'est pas la première fois qu'il nous fait un coup pareil, il nous a fait croire qu'il était chanteur.
Et des brèves.
Je vous ai regardé, hein. Ouais. J'ai dit, ça a bien les fait marrer, ça. Et des brèves. Crise des opiacés aux États-Unis, des groupes pharmaceutiques vont verser 665 millions de dollars aux Amérindiens. Et 665 millions de dollars, ça fait quand même beaucoup de sioux.
Oh
ben oui.
Parce
qu'elle est mignonne.
Elle est mignonne. Oui. Et la dernière, est-ce qu'elle est mignonne? Ah, c'est un
oui,
son.
Oui, oui, c'est un son. Et vous, oui, enfin moi j'ai trouvé ça fou parce que BFM a couvert les tempêtes de vent en Vendée et ils ont croisé une personne bravant comme ça le vent avec un petit appareil à la main, comme Guillaume quand il va dans la rue, et qui avait une passion que j'ai découverte.
Cet homme peine à tenir debout tant le vent souffle. Dans sa main, un appareil qui mesure le vent.
Une rafale à 132 km/h.
Et pas question pour lui de se mettre à l'abri.
J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi.
C'est vrai ?
Ouais.
Un passionné de vent.
Oui. Des passionnés de vent, vous en avez eu hier aussi. Un monsieur d'un certain âge.
Oui, 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 on salue Jean-Marie Le Pen. Oui, oui. Non, mais c'est un collectionneur de vitesse du vent. Un type qui peut dire Dunkerque, 136 km en 2006, j'y étais. Je l'ai le son. Donc j'embrasse tous les zéophiles de France. Merci beaucoup, Juliette.
C'est moi qui vous remercie, Alex.
Nous, on vous remercie en tout cas. C'était vraiment formidable. Eh bien, c'est à vous de chroniquer.
Ah ben, j'y vais.
Et là, maintenant, fini de rigoler, fini l'approximation quand c'est avec moi, quand c'est vous, c'est précis, c'est carré, on apprend des choses, on a envie de lire un livre après.
Tout à fait. Alors, je vais vous parler d'un livre de Giono qui s'appelle Un roi sans divertissement. Giono, l'écrivain de la ruralité provençale, qui est l'exact contemporain de Pagnol, même date de naissance, c'est rigolo, 1895. Giono, l'autre écrivain sudiste célèbre, qui marque ici, en 1946, encore plus sa différence avec ce roman. Et il disait de ce roman, c'est le roman d'un justicier que j'ai écrit. Alors, potentiellement, on se doute qu'on va pas trop s'occuper de Cigale, de Bartavel et de la gloire de ma mère, hein, même si on va rester dans le sud. Roman d'un justicier, moi, ça m'inquiète cette formule, d'autant que Giono, fin lettré et lecteur vorace, sait précisément de quoi il cause. Des polars, il en lit des tonnes à cette époque. Eh ben, j'ai pas été déçue. Il y a des disparitions, des meurtres en série, un assassin, une enquête, c'est donc un enquêteur, et une résolution, et nous voilà parvenus au premier tiers du livre. Que... Hein ? Mais non ! Mais c'est pas comme ça du tout ! Mais on va faire quoi avec les deux autres tiers, Juju ? Sauf que, empiriquement, c'est une excellente question, non ? Imaginez un conte de fées qui persiste après ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est vertigineux, tous les possibles. Divorce ? Féminide ? Séféminicide ? EHPAD ? On sait pas. Autre question. Puisque c'est un polar, est-ce que ça finit par « il, le justicier, vécu heureux et tua beaucoup d'assassins » C'est un peu bizarre quand même comme morale de l'histoire. Mais comme d'habitude, je m'avance trop, retour au tout début du roman.
Wow. Il y a des effets spéciaux.
Bien sûr. On est à la montagne, dans les Alpes du Sud. On est dans un village d'une centaine d'habitants. On est en 1843, c'est un matin d'hiver. Et il commence à neiger. Je cite Giono. À midi, tout est couvert, tout est effacé, il n'y a plus de monde, plus de bruit, plus rien. 1 heure, 2 heures, 3 heures, la neige continue à tomber. 4 heures, la nuit, on allume les âtres. 5 heures, 6, 7, on allume les lampes, il neige. Dehors, il n'y a plus ni terre, ni ciel, il n'y a plus que des amas croulants de cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater. Alors je sais pas vous, mais moi j'y suis. Je sens le froid qui descend en moi. Je sens une petite trouille qui monte. Encore 2 jours de neige non-stop. Et puis bam, ça arrive. Une femme, Marie Chazotte, disparaît. Et puis un homme manque d'être enlevé pendant qu'un cochon est mutilé salement, du sang, de partout sur la neige. Et puis encore un homme est tué. Le village, malgré la neige qui l'enferme, envoie un groupe d'hommes pour chercher, évidemment quoi, comme dans un western, la cavalerie. En l'occurrence, des gendarmes, menés par leur chef, le capitaine Langlois. Alors Langlois, c'est un ancien soldat, il revient d'Algérie, que la guerre en 1830 a entrepris de conquérir et de coloniser. Là-bas, il a vu l'horreur, hein, comme le colonel Kurtz pendant une autre guerre qu'on connaît bien. Mais Langlois n'en est pas mort. Giono connaît ça, et pas par les livres pour le coup. Giono a survécu à la Première Guerre mondiale, il a vu le chemin des dames, il a vu Verdun, il a été gazé, son meilleur ami y est resté, il a vu le sang dans la neige et la boue, et lui est vivant, et depuis Giono est farouchement pacifiste. Et Langlois, l'est-il pacifiste ? Permettez-moi d'esquiver cette question pour le moment. Langlois s'installe dans le village, cherche, protège comme il peut le reste des habitants, piste et traque toute trace dans la neige, et puis un jour, le tueur en série est à sa portée. Le curé du village parlait d'un monstre en parlant du tueur. Langlois disait que ce n'était sans doute qu'un homme comme un autre. Langlois avait raison. Il le sort de chez lui sans vacarme, l'entraîne dans la forêt et le tue de 2 balles. Langlois, tranquillement, fait justice, comme dans un western du Wild Wild West, sauf que en 1843, en France, ça c'est pas normal. Langlois rédige une lettre expliquant que c'est une faute due à ses armes et qu'il démissionne fin du premier tiers. Quelques saisons passent, il revient vivre au village, sauf que voilà, on n'en a pas fini du sang dans la neige. Et que le titre « Un roi sans divertissement » va commencer à s'éclaircir. Comment ? Je vous le dirai sans doute la semaine prochaine. Merci, bisous, merci.
Vous allez nous faire le deuxième tiers la semaine prochaine.
Vous êtes tellement intelligent.
Ouais, mais le troisième, vous n'allez pas nous le faire, vous allez dire « lis le livre ». Ben bien sûr. C'est des techniques de marketing, bien évidemment. Merci infiniment, Juliette Arnaud. Rendons-nous chez celle qui nous vient de Marseille. C'est Marina Chiche, bébé.
Lundi dernier, Laëlia a posté un message SOS sur Twitter. Sans accès à Internet ou à des ordi, elle devait parler opéra avec les personnes détenues auxquelles elle donne cours en prison. Comment faire, disait-elle, d'écrire, chanter ? Alors je me suis dit que j'allais lui donner un coup de main aujourd'hui et relever le défi de parler d'opéra au violon. Et ça tombe bien parce que l'opéra est un genre qui a beaucoup inspiré les compositeurs, même dans leurs œuvres purement instrumentales. Certes, avec les instruments, il n'y a pas de texte, pas de parole, mais on retrouve la vocalité et la théâtralité du discours. Prenons par exemple un thème d'un concerto de mon cher Niccolo Paganini, concerto pour violon et orchestre. C'est un thème, une belle mélodie qui s'inscrit droit dans la lignée de ce qu'on appelle le bel canto italien, le beau chant dans l'art lyrique. Ça chante. Et Paganini va profiter des différents timbres, des registres du violon pour incarner cette théâtralité. Autrement dit, il utilise la personnalité de chaque corde pour incarner les personnages principaux. Alors il va reprendre ce thème, d'abord sur la corde aiguë, la corde de mi, surnommée la chanterelle. Ça serait un peu la jeune fille fragile. Ça, ce serait l'équivalent de la soprano. Et puis, va lui répondre sur la corde grave, la corde de sol, bah, le personnage masculin. Alors, vous voyez, on a notre couple, on a la soprano et le ténor. Alors, je vous avoue que c'est un peu binaire tout ça. Je sens que Guillaume Meurice, le woke, trépigne. Alors, ouais, on ne va pas canceller Paganini tout de suite. Mais on peut jouer un duo, rien que sur un violon, 2 en 1, comme nous le disait tout à l'heure Laurence Bibot avec les cheveux. Là, c'est le violon. Et ça tombe bien parce que le pitch de l'opéra, comme le dit George Bernard Shaw, c'est une histoire où un baryton fait tout pour empêcher un ténor de coucher avec une soprano. Au 19e siècle, les airs d'opéra intéressent beaucoup les virtuoses, violonistes, pianistes ou les autres d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, c'est un super moyen de reprendre ses airs sur des instruments à une époque où il n'y a pas d'enregistrement, pas de radio, pas de streaming. Et quand les thèmes sont devenus populaires, eh ben, succès assuré. Et enfin,
on peut ornementer ces thèmes de manière très virtuose pour en mettre plein la vue. Ainsi, il y a profusion de fantaisie sur des airs d'opéra, des pot-pourris, des medleys. Et c'est ce que fait un autre grand virtuose du violon, Pablo de Sarasate, sur un thème que je vous laisse reconnaître.
Et Juliette a reconnu la Traviata de Beethoven.
Mais ce mec est infernal.
Ah non, ah, ça fait jouer à rien.
Alors, je vais faire une tonalité France Musique. Comme
oui,
la demande d'Emeris, nous écoutions les fantaisies sur des airs de Carmen, de Pablo de Sarasate, avec Itzhak Perlman et le Royal Philharmonia dirigé par Laurence Foster. Sacré Adieu Laurence. Aux amateurs d'opéra en cas d'incarcération, il sera toujours temps de se mettre au violon.
Merci infiniment, Marina.
Merci Marina. Je pensais que c'était une blague quand elle a dit qu'elle ferait une chronique pour m'aider. Non, elle le fait. Merci Marina.
Service public. Si elle peut aider, elle aide. Il n'y a pas de problème. Juliette Arbeau, est-ce que vous pouvez m'aider et faire un peu le bilan de l'émission?
Bien sûr. On s'est déjà régalé avec Laurence Bibot, oui. Juliette Arnaud et Marina Chiche. On salive en songeant que vont arriver la Elia Véron et la Masterclass Cinéma 2. Moussé Hakim. Maintenant, place au trou normand, Guillaume.
Ouais, c'est bien la
C'est un beau lancement. C'est un beau lancement.
Alors, les enfants, dans ce Parjupic Classe, aujourd'hui, on va parler de la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'on l'attend. On l'attend. Elle non. est aussi lente à arriver que notre réalisateur François Audouin quand il s'agit d'aller manger à midi. On l'attend cette guerre parce que la guerre, c'est bien quand même. Voilà. Même sa réponse se fait attendre. La guerre, c'est bien. On le dit pas assez, la guerre c'est bien, ça fait des belles images pour le JT, il y a de la lumière, il y a du bruit, c'est comme un concert de David Guetta mais sans la musique, donc on est sur du win-win finalement, et la guerre ça fédère les gens, on a un ennemi commun, ça c'est bien, vous allez me dire oui bah, nous il y a déjà les Belges qu'on peut pas blairer tous les 4 ans, c'est vrai mais ça ne suffit pas, puis on peut pas faire la guerre aux Belges. L'armée des Belges, ça n'existe pas. Ah, c'est comme si tu prends Philippe Croison, gardien de but. Ça ne va pas. Alors, il y a un espoir en ce moment, c'est la merde entre la Russie et l'Ukraine. Et on sent que c'est bien Tendax, mais on ne pige pas bien tous les enjeux. Bon, alors pour comprendre tout ça, conflit, Russie-Ukraine, je suis allé voir les meilleurs spécialistes géopolitiques de France. Et coup de bol, ils étaient tous dans la rue ce matin. Ça, c'est vrai que j'ai un petit peu de chance là-dessus. On commence tout de suite.
Franchement, déjà que l'Ukraine, un peu dans la merde, et qui encore?
La Russie.
La Russie, alors la Russie, c'est une puissance mondiale. Donc, ouais, bah, bon courage pour l'Ukraine, mais bon.
Vous soutenez qui?
Moi, je soutiens personne. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'ils devraient faire la paix. C'est con, la guerre.
Ah, oh, je suis tombé sur Miss France. Merde, alors ça, c'est pas de bol. N'écoutez pas ces conneries-là, les enfants. Hein. Vous imaginez s'il n'y avait pas de guerre, de racisme, de violence, de misère? Qu'est-ce qu'on raconterait dans les livres d'histoire? Et les chansons de Zebda, il resterait quoi? Tomber la chemise? Ben, c'est pas un projet de société, ça, les gars.
Ça suffit pas.
Ça non, ça suffit pas, quoi. Bon, allez, continuons avec un autre expert en géopolitique.
Moi, je pense que ça peut péter, mais bon, il y a les Américains derrière. Ils veulent éviter une guerre avec le Covid, tout ça.
C'est-à-dire avec le Covid?
Bah avec le Covid, personne n'a envie de rien, quoi.
Ouais, parce que la guerre, ça fait des, oui, ça fait des cas contacts, quoi.
Ouais. Ouais, ça on n'y pense pas, parce que les missiles ne sont pas désinfectés avant d'être envoyés. Donc bonjour le protocole sanitaire dans la guerre, merci beaucoup, c'est n'importe quoi. On n'a pas beaucoup entendu Pierre Aski sur la question.
Non.
Vous avez remarqué, heureusement que je suis là pour un petit peu les angles morts de la géopolitique. Hein. Je rattrape le coup l'après-midi. Donc les Russes et les Ukrainiens peuvent s'envoyer le virus.
Le virus ou le vaccin? Non, c'est pas un vaccin.
Le virus.
C'est pas un vaccin, c'est une injection. Attention.
Ah, c'est-à-dire?
Oui, c'est pas un vaccin.
Ah bon?
Ah oui.
Mais c'est quoi la différence entre une injection et un vaccin?
Un vaccin, il doit être homologué normalement, le vaccin. C'est pas un vaccin, c'est une injection.
Okay.
Faut bien comprendre ça, hein. On l'a pas dit aux Français, mais moi je vous le dis.
Oui, d'accord. Parce que, bon, coup de bol, il était aussi épidémiologiste et virologue. Parce qu'on peut cumuler plusieurs spécialités. Hein, c'est pas interdit. D'ailleurs, en France, souvent, c'est ce qui arrive. On cumule. Ah, ça, c'est la formation Pascal Pro. C'est une formation accélérée en 2 semaines. Vous apprenez les techniques. Par exemple, si vous êtes un peu léger sur un sujet, vous parlez en criant. Vous dites, arrête, André, enfin! Et l'islam, alors? Ouais, c'est une petite technique, hein, formation accélérée, Pascal Pro. En attendant, revenons donc à la guerre, hein, bien sûr.
Il devrait y avoir une guerre. Plus il y aura une guerre, moins l'économie marche, et plus le gaz râle, il soit moins cher. En général, c'est comme ça.
Ah oui, moi, je croyais que c'était l'inverse. Parce qu'en guerre, souvent, il y a de la rareté, donc les prix augmentent.
Ah non, plus l'économie fonctionne, et plus le gasoil augmente. Ben oui, c'est logique.
Je comprends pas la logique.
Parce que la logique, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Ben oui!
Mais plus il y a d'offres, moins
c'est
cher.
Plus il y a d'offres, mais non, plus il y a d'offres, plus c'est cher. Croyez-moi.
Alors, attention, parce que moi je crois volontiers qu'en plus d'être expert en géopolitique en pandémie, t'as un master 2 en économie. Attention, moi je m'incline. Vous voyez, c'est quand même toujours bien les enfants d'aller consulter les experts, parce qu'on a la chance comme ça autour de nous d'en avoir plein dans notre pays, et souvent on les consulte pas. Et en plus, on a le meilleur. On a le meilleur, c'est Roger. C'est Roger, alors Roger, est-ce que la guerre c'est bien?
Mais non, c'est pas bien de toute façon. Si on tuait tous les cons qu'on a en France. Hein.
Si on tuait tous les cons?
Ouais, ben y en a un paquet. Hein. Même ceux qui nous prennent tellement depuis l'ordre de Mitterrand.
Non, Roger, non, on a dit 2022, on prend les bonnes résolutions, on arrête de parler de Mitterrand. On peut pas rester bloqué comme ça. Faut penser à l'avenir. Et l'avenir de la France, c'est peut-être l'arrivée au pouvoir d'un Poutine français. Hein, on a besoin de ça ou pas, Roger?
Plus que besoin.
Un Poutine français?
Ouais, un Poutine français, mais il n'y en a pas de Poutine français. Si, Zemmour.
Zemmour, ça serait le Poutine français?
On ne sait jamais.
Qu'est-ce qu'il a de Poutine, Zemmour?
Il y a besoin d'ordre en France. Quand tu vois, toi, t'as là, il y a un vélo que t'as en travers du trottoir. Mais tout est comme ça, tout est foutu. Il n'y a qu'une...
Avec Poutine, ça n'arriverait pas, ça.
C'est fort possible.
Voilà. Mais bien sûr, il faut de l'ordre avec Poutine et Zemmour. Plus de vélos en travers du trottoir. Surtout si la roue est voilée. Faut rigoler, les enfants. Ouais. C'est mon conseil du jour. Rions un peu en attendant la Troisième Guerre mondiale. Fendons-nous la gueule en attendant qu'un missile ne le fasse.
Merci, Guillaume Meurice.
On a bien avancé.
Et oui.
Là, on a bien tout pigé.
En 4 minutes.
Voilà.
Hein.
On
partait de rien et pouf.
On a
Sky is the limit. Passons aux exercices. C'est Juliette qui commence le premier exercice.
Alors, Christiane Taubira est donc officiellement candidate à la présidentielle. C'est que ça commence à en faire des candidatures à gauche. Ah. Mais combien? Réponse A, 1 675 273 887. Réponse B, 1 675 273 886. Réponse C, 1 675.
On n'est déjà pas en avance, vous n'allez pas passer tout l'exercice à faire ça.
Alors, réponse C, okay. À la louche 10, il y en a un peu plus, je vous le laisse quand même.
Voilà.
Réponse D, alors attendez, il faut que je mette ma blouse de scientifique.
Il y a du jeu.
Et mes lunettes de scientifique.
Oh là là,
oh là, là.
Oh, attention,
et qu'est-ce que je c'est? Je vous sors mon petit. Donc, comme vous le voyez, nous avons
graphique.
Assisté à un premier pic des candidatures à la rentrée, avant une baisse significative avec le départ du variant Montebourg. Et ensuite, nous sommes entrés dans une seconde vague. Mais comme vous le voyez, là, nous atteignons un plateau, parce que c'est marqué plateau.
Voilà.
Voilà. Le nombre de candidatures stagne un peu. Nous sommes donc sur la fin de cette seconde vague. Et c'était la réponse D.
Pas plus mal. Merci Juliette.
Je vous en prie.
Guillaume, votre
avis. Alors, on a appris hier que dans les émissions de Cyril Hanouna, 53% du temps de parole était consacré à l'extrême droite, ce qui est... Oh là là, quelle surprise! On est tous un petit peu sur le cul. Alors, où trouve-t-on un tel ratio? Réponse A, sur les réseaux sociaux de France Inter. Cœur avec les chats de Marinou, hein, comme on l'appelle dans les couloirs, voilà. Réponse B, sur le compte Twitter de Manuel Valls. Manuel Valls, hein, pour les bilingues. Réponse C, dans le film Bac Nord, avec l'excellent acteur Gilles Lelouch. Non, je confonds avec... Philippe Lelouch. Non, ça marche pas non plus. Mais il n'y a pas d'acteur dans cette famille ou quoi? Bon. Réponse D, dans Le Point, Marianne, Le Figaro, L'Express, Le JDD, Caravane Magazine, Chemise en soie hebdo ou encore le bimensuel Sonuc Long. J'étais abonné quand j'étais ado.
Oui, on ne connaît que cette époque-là, Marianne, n'est-ce pas? Époque où on gagnait des Coupes d'Europe à Marseille.
Jamais les premiers.
Les réponses sur la page Facebook. Maintenant, c'est l'heure, attention, de celle qui tourne 7 fois ses mots dans sa grammaire avant d'écrire ce qui lui plaira quand même, c'est Laëlia Véron.
Merci Alex. Aujourd'hui, je voulais qu'on décrypte l'extrait d'un discours d'Emmanuel Macron le 13 janvier 2022.
On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants.
Alors cette phrase a fait polémique à cause de ses sous-entendus et de ses présupposés, tout ce qu'en linguistique on désigne sous le nom d'inférence ou d'implicite. Ça a été étudié notamment par la chercheuse Catherine Kerba-Orecchioni et je m'appuie sur ses travaux dans cette chronique. Alors première implicite, le sous-entendu, c'est-à-dire une information qui est susceptible d'être véhiculée par l'énoncé mais sans apparaître explicitement. Par exemple, si je dis à Juliette, vous au moins vous suivez cette chronique, je sous-entends que les autres ne suivent pas vraiment, même si je ne le dis pas directement. Je pourrais toujours dire, je ne l'ai jamais dit. Il y a un sous-entendu qui a été déduit par à peu près tout le monde de la prise de parole de Macron, la hausse des frais d'inscription à l'université. Il s'en est clairement défendu.
Qu'en effet, quand on veut se battre contre la précarité étudiante, on n'augmente pas les droits d'inscription à l'université. C'est d'ailleurs pour ça que, contrairement à ce que j'ai pu lire partout dans la presse, je n'ai jamais dit ça.
Alors, l'interprétation du sous-entendu, elle est toujours sujette à polémique, puisqu'il n'est par définition pas dans l'énoncé. Mais il ne se fonde pas sur rien non plus. Dans notre exemple, il a été déduit d'un faisceau d'indices contextuels. Par exemple, le programme Bienvenue en France, mal nommé, de 2019, qui prévoit une très forte augmentation des frais d'inscription pour les étudiantes et étudiants extra-Union européenne, quand même 3 700 € en master. Et plus généralement, la multiplication générale des masters à prix prohibitif dans plein d'établissements publics, des écoles d'ingénieurs, des IEP, etc. Mais il y a un deuxième implicite dans cette phrase, le présupposé. Et lui, il ne dépend pas du contexte. Il est nécessairement dans l'énoncé, même s'il n'est pas saillant. Par exemple, quand Manuel Valls dit « Je suis toujours un homme de gauche », l'information, le posé, c'est qu'il l'est encore, et le présupposé, c'est qu'il l'a été, sinon la phrase est absurde. Donc, vous voyez où je veux en venir, le présupposé est présenté subrepticement comme allant de soi, ce qui peut être problématique, comme Manuel Valls. Dans la petite phrase de Macron, quand il dit qu'on reste dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, le présupposé, c'est qu'on y est. Or, c'est faux. D'abord, il y a les frais d'inscription existants. Ensuite, il faut acheter des fournitures, se nourrir, se loger, alors qu'il y a, entre autres, un manque important de logements en France. Faire des études a bien un prix en France. Enfin, troisième implicite possible de ce discours, la dénonciation morale d'une prétendue logique étudiante, si ça ne coûte rien, on s'inscrit n'importe où, on s'en fiche de redoubler, etc. Et là, on retrouve un vieux postulat qui n'est pas linguistique, mais politique. Les gens, surtout les pauvres, seraient des fainéants et il faudrait leur redonner le goût de la valeur de l'effort en les faisant payer.
Merci, Laëlia Véron. Je ne dirais pas que votre chronique n'était pas militante. Sous-entendu un petit peu qu'elle pouvait l'être un peu. Et on vous remercie.
Elle était explicite.
Oui. On vous remercie pour ça. C'est à vous. Ils ont bien préparé. Ils ont à peu près analysé.
Ah oui ? C'est à nous là maintenant.
Ah, mais je voulais vous faire un piège.
Ah,
parce que là, moi,
ça veut dire qu'il avait oublié.
Moi, j'avais envie. Mais dans mon oreille, on m'a dit c'est le disque. Alors, c'est quoi ? Ça va nous permettre. Il y a 28 secondes d'intro, vous pouvez vous foutre de ma gueule si vous avez envie. Il n'y a pas de problème.
On ne dit pas faire un piège, mais tendre. Voilà, c'est tout.
Merci.
Passé. Recadré.
Parquet court.
Until the wine filled the eyes.
Sport qui court, watching stranger smiles.
Yeah.
Regarder d'étranges sourires. Bien évidemment qu'on ne voit plus à cause des masques.
C'est ça, à cause de la dictature sanitaire.
Exactement.
Plus exactement.
Oui. C'est à vous cette fois. Cette fois, je me trompe qu'une fois normalement dans l'émission et c'était avant le disque.
C'est pas une feinte.
Cette fois, c'est pas une feinte. C'est pas une feinte. Moussa Hakim, masterclass de cinéma.
Hakim, ça va être à nous. T'es prêt?
Ok. On est bon. Bon, ils sont marrants avec leur idée de chronique. Hein. Venez nous parler d'un film qui vous a marqué. Comment dire, on a 50 piges. Ils ont compris qu'on était deux. Bon, l'avantage, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, on a une histoire en commun.
Ouais, c'est ça. Du coup, on a plutôt choisi de vous parler d'un réalisateur, acteur, scénariste algérien qui s'appelle...
Mahmoud Zemmouri.
Mahmoud Zemmouri en français.
On aurait pu parler de Mehdi Sharef, Mirza Karouache, Malik Chiben.
Mais on a choisi de rendre hommage à Mahmoud Zemmouri. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir à la base de Guy Fissé, que c'est plutôt positif comme nom, Zemmouri.
On parle d'Olive, tout de même. Bon, c'est ça la maison.
Oui. Alors, Mahmoud Zemmouri, il a fait une grande partie de sa carrière en France, et en tant qu'acteur, il a joué dans des films ultra populaires, La Smala, Pino Simple Flic, Nuit d'Ivresse. Il est aussi Rachid dans Ciao Pantin. Il était pas gentil, le Rachid, pas cool.
Il a réalisé des films carrément mythiques pour nous, par exemple, Prends 10 000 balles et casse-toi, 1981.
À la fin des années 70, sous Giscard, la loi Stoleru proposait 10 000 francs à tous les immigrés pour un retour au pays d'origine, histoire de jouer sur le mythe du retour.
Voilà l'idée du film. Un père accepte et retourne au bled avec sa famille. Mais pour ses enfants qui sont des adolescents, c'est pas la même histoire. Ce sont de vrais Français.
Des Parisiens même.
Parisiens. Parisiens, tu te rends compte? Ce film participera avec humour à quelque chose de très important, la fin du mythe du retour.
On en a connu des gens qui ont vécu cette situation. Autant vous dire qu'ils sont revenus vite fait. Certains ne parlaient même pas l'arabe.
D'ailleurs, tu n'es pas le seul immigré ici. Il y en a plein, plusieurs ici. Tu vas voir, je vais te montrer.
Ouais, je sais. Mais ce qui me fait chier, c'est que je cause pas musulman.
Il a aussi réalisé Les Folles Années du Twist avec Jacques Villeray et Richard Bourringer en 1986, une comédie qui se passe pendant la guerre d'Algérie.
D'Hollywood à Thomas Rasset en 1991, on entend le générique, un genre de western façon 1-2-3.
Au fin fond du bled, l'arrivée de la parabole transforme les habitants d'un village en personnages vedettes de séries de cette époque.
Il y a Colombo,
Koujak,
Rambo, Clint Eastwood,
JR, héros de Dallas, série américaine offerte à l'Algérie par les USA de Jimmy Carter, en remerciement de leur action pour la libération des otages de leur ambassade à Téhéran.
En tout cas, ils se débrouillent très bien. Je me demande comment un couscoussi peut capter les télévisions étrangères. Moi, qu'en pense ça.
L'antenne couscous rend l'image plus nette. Ça, il ne capte que les programmes algériens.
Mais quel programme algérien?
On voulait rendre hommage à cet artiste qui a participé à notre devoir d'invention en tant qu'enfant de travailleurs immigrés algériens dans un quartier populaire du côté de Toulouse. Il nous a aidé à rire de nous-mêmes. Même.
Alors c'est vrai que ces films sont un peu datés, mais quand on regarde 40 ans après comment est racontée la diversité de ce pays, on peut se dire que les choses ont quand même bien bougé et qu'il faut continuer dans ce sens.
Pour que ce soit clair, nous sommes toutes et tous issus de la diversité. Par définition, la diversité, c'est tout le monde ou ça ne veut rien dire.
Alors tant qu'on y est, Hakim, merci Aïdir, Rachita, Noura, Semanaz,
Ouarda, Dahman Harachi, Shikharimiti.
Merci Zemmouri.
Il revient à ma mémoire
des souvenirs familiers. Ah, au fait, on a aussi des copines qui s'appellent Marine. Hein.
Et Marion aussi.
On les embrasse.
On les embrasse.
Bisous.
Ciao.
Merci.
Merci à vous.
Et Hakim d'avoir mis la lumière sur le Z.
Le vrai Z.
Zemmouri. Merci d'avoir parlé de cinéma algérien.
Merci
aussi. Et ben, on a le temps de faire le dessin, Juliette. Vous êtes une mauvaise langue. Je pensais vraiment. voilà. J'y arriverai pas. Alors, c'est plus qu'un dessin. C'est un bricolage. Et voilà, bricolage facile, hein. Vous avez vu sur le bureau d'Emmanuel Macron le post-it.
Oui.
Hein, voilà, il voulait communiquer, il a mis sur un petit post-it. Ouverture du pass culture pour les plus jeunes, 15, 16, 17 ans, fait. Hein, sous-entendu, voilà, ouais. j'ai fait le boulot. Alors, prends un post-it et écris toi-même ta to-do list d'Emmanuel Macron. Alors, ça peut être zéro SDF à faire. Ça peut être urgent d'annoncer ma candidature. Ou ça peut être déjeuner avec Dominique Seux. Voilà, est possible. Poste ta photo sur Twitter avec le hashtag ParJupiter ou envoie-le par mail, bien sûr, parjupiter@radiofrance.com. Merci à tous. J'ai le temps de remercier Laurence Bibot, Laëlia Véron, Marina Chiche, Moussa Hakim.
Oh, vous étiez
parfait.
Merci à vous.
En propagandiste cinéma algérien, c'était un bonheur. Merci Guillaume Meurice. Et merci à vous, Juliette Arnault. Je vous abandonne demain.
Et oui, car vous jouez demain soir à Argenton dans l'Orne.
Argentan.
En revanche, Argentan.
Et oui.
Parce que sinon, c'est pas dans l'Orne. En revanche, avec Guillaume, demain, nous recevons un couple, Pierre et Myriam Cabon, qui ont sillonné le monde, l'Amérique du Sud, l'Océanie et même peut-être.
Il vous envoie en Syrie.
Nous, tout ce qui est charpente.